Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous informer ce soir les titres du journal. Prise en charge des blessés de guerre au nord et sud Kivu. Médecins sans frontières parlent depuis d'une centaine de blessés issus des combats entre le FARDC et l'AM23 qui sont traités par ces équipes dans quatre structures médicales qu'ils appuient dans ces deux provinces. Alors que le combat se poursuit sur le terrain, cette organisation internationale appelle au respect du droit international humanitaire. Diminution du prix du chinchard, communément appelé Mpiodi, chez les grossistes à Kinshasa. Cette baisse est saluée par les commerçants et les consommateurs qui espèrent que cette tendance baissière se maintiendra dans le temps. La société de microcrédit congolaise Osmico, désormais implantée à Kindu, au Maniema, afin de desservir la population. Le gérant de cette société, Jean-Claude Cachemois, est l'invité de ce journal. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre par le Nord Kivu. Plus de 70 blessés de récents combats opposant le AM23 au FARDC sont pris en charge dans deux structures médicales appuyées par Médecins sans frontières MSF dans les territoires de Massissi. C'est notamment à l'hôpital général de Massissi et au centre de santé de référence de Nyabiondo à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Massissi centre et à plus de 100 kilomètres à l'ouest de Goma. D'autres blessés sont également traités par les équipes de MSF à l'hôpital général du Minova et au centre hospitalier de Numbi, au sud Kivu. Alors que les combats se poursuivent, MSF appelle au respect du droit international humanitaire. Denise Lukeso.
Le chef des missions de MSF en RDC indique que ces combats ont eu deux conséquences directes sur les structures médicales appuyées par MSF. Stéphane Gutberg.
Nous avons dû faire face à un afflux de blessés qui ont été pris en charge, que ce soit à l'hôpital général de Massissi ou au centre de santé de référence de Nyabiondo, et pour un nombre total de plus de 75 blessés issus des combats. D'un autre côté, pendant plusieurs jours à Massissi et un peu moins longtemps à Nyabiondo, les structures médicales ont hébergé plusieurs centaines de civils, parfois avec certains de leurs biens, qui viennent trouver refuge parce qu'ils savent qu'ils bénéficient à l'intérieur de la structure médicale d'une protection accrue.
Signalons que 84 autres blessés sont pris en charge également à l'hôpital général de Minova et au centre hospitalier de Numbi par les équipes de MSF présentes au sud Kivu, explique Julien Gircourt, chef des missions de MSF au sud Kivu. Ces personnes ont été blessées lors des violents combats signalés dans le haut plateau de Numbi à Minova. Avec la situation qui se calme sur le terrain, MSF compte évaluer les conséquences globales de ces combats sur le plan humanitaire et voir les besoins de cette population. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu et en plus bref, des violents combats se sont poursuivis toute la journée ce mercredi au chef-lieu du territoire de Massissi et dans l'agglomération de Ngungu dans le groupement Ufamandu 1er. Le FARDC appuyé par le combattant Wazalendo ont poursuivi des attaques pour tenter de déloger le rebelle du AM23 de ces agglomérations qu'ils occupent. Selon plusieurs sources, l'armée a réussi à reconquérir une partie de Massissi centre à plus de 80 km à l'ouest de Goma. Même chose pour Ngungu, où les rebelles du AM23 ne sont pas encore délogés totalement. Des tirs nourris sont toujours entendus jusqu'à ce soir dans ces entités, précisent nos sources. Toujours au Nord Kivu, le centre de santé des Kichombiro dans le territoire de Lubero a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi par des hommes armés non identifiés. Selon la société civile locale, ces inciviques ont emporté plusieurs effets, notamment de matelas et autres biens de valeur. Une situation qui complique davantage la prise en charge des malades dans cette structure médicale de la région. André Kitenge nous fait le point.
Selon des sources médicales et de la société civile locale, des tirs nourris ont précédé le cambriolage du centre de santé de Kichombiro pendant près d'une heure. Des matelas de malades, médicaments et autres appareils médicaux ont été emportés par des hommes armés non identifiés, portant des uniformes similaires à ceux des FARDC, précisent nos sources. Certains bureaux et la salle d'accouchement de la maternité ont été également vandalisés, ajoutent les mêmes sources. Selon une infirmière qui a requis l'anonymat, ce pillage du centre de santé de Kichombiro vient compliquer davantage davantage la prise en charge des malades dans une région envahie par des déplacés de guerre souvent démunis, des personnes qui ont fui les combats entre les FARDC et les M23 dans le sud du territoire de Lubero. Tout en condamnant ce pillage, la société civile locale recommande aux autorités militaires de diligenter une enquête pour identifier les auteurs de cet acte et de les déférer devant la justice militaire. Contacté, le colonel Alain Kiwewa, l'administrateur du territoire de Lubero, ne confirme pas cette information. Il promet de se prononcer une fois imprégné de la situation. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et puis, cette autre nouvelle qui frappe la presse congolaise, Patrick Adonis Numbi Banzi, directeur général de la chaîne de télévision Pamoudia, canal de Lumumbashi, n'est plus. Il a été assassiné à coups de machette au crâne par des personnes non identifiées dans la nuit de mardi à ce mercredi, alors qu'il regagnait son domicile. L'Union nationale de la presse congolaise, section du Haut-Katanga, condamne fermement ce meurtre. Karine Topiridassi nous en parle.
Dans un communiqué publié ce mercredi, l'UNPC indique que son corps a été retrouvé par des patrouilleurs de la police nationale congolaise vers 1h du matin. Ces patrouilleurs l'ont ensuite acheminé à la morgue, indique le communiqué. Le président de l'UNPC en RDC, Kamanda Wakamanda Muzembe, appelle les autorités à faire la lumière sur cet acte pour retrouver et réprimer les auteurs conformément à la loi. Il a également appelé les confrères et consoeurs au calme en attendant la conclusion des enquêtes. Ce matin, une centaine de journalistes de Lubumbashi ont organisé une marche pacifique pour dénoncer ce meurtre qu'ils qualifient d'odieux. Ils se sont ensuite rendus au siège de l'Assemblée provinciale pour déposer leur mémorandum au président de l'organe délibérant dans lequel ils dénoncent cet acte. Entre-temps, Junior Ndala, président à l'intérim de l'UNPC au Katanga, appelle à la mobilisation de tous les journalistes pour des actions pacifiques afin de dénoncer non seulement l'assassinat du confrère, mais aussi l'insécurité criante qui se vit depuis quelques mois dans la capitale cuprifère.
L'actualité, c'est aussi la diminution du prix du chinchard, communément appelé mpiodi, depuis quelques jours auprès des grossistes à Kinshasa. Un reporter de Radio Kapi a fait ce constat à la suite d'une ronde effectuée dans quelques chambres froides de la ville. De ménagères interrogées souhaitent que cette tendance baissière soit maintenue dans la durée. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
La mesure du gouvernement visant à alléger les paniers de la ménagère commence à produire ses fruits sur les différents marchés de Kinshasa. Un carton de 30 kilos de chinchard de 18 plus qui coûtait 220 000 francs congolais il y a un mois est désormais vendu à 180 000 francs congolais. De même, celui de 20 plus se négocie actuellement à 210 000 francs congolais au lieu de 230 000 francs comme d'habitude. Cela représente une réduction de 10 dollars américains par carton pour ces produits les plus prisés des foyers de Kinshasa. Toutefois, la population reste attentive à l'évolution des prix et espère que cette tendance à la baisse va se maintenir dans la durée. Cette baisse est saluée par les commerçants et consommateurs que nous avons rencontrés aux environs du marché central de Kinshasa. Ils attribuent cette diminution des prix aux réformes engagées par le gouvernement souminois pour réduire les coûts des denrées de consommation. Pour rappel, le gouvernement avait suspendu la TVA et réduit les droits et taxes sur 8 produits de première nécessité. Il s'agit notamment du poisson frais, de la viande, du poulet et de la farine de maïs.
Province de Lomami, suspension ce mardi par le responsable de Crexis venu de Pékin en Chine des travaux de modernisation de la nationale numéro 1, axe Mweneditu Mbujimai. Cette décision a été prise pour exiger l'arrestation de l'auteur du double meurtre des sujets chinois le jour de la Saint-Sylvestre à Mweneditu. Des explications Esther Ndalafina.
Au cours de la réunion du Conseil de sécurité urbain élargi à plusieurs services, les responsables de Grec 6 venus de Pékin en Chine ont annoncé ce mardi au maire de la ville de Mweneditu de la suspension des travaux de modernisation de la nationale numéro 1, axe Mweneditu-Mbujimai, long de près de 130 km. Selon eux, la reprise des travaux est consécutive à l'arrestation de l'agent de police en cavale qui a tiré à bout portant sur deux sujets chinois le jour de la Saint-Sylvestre à Mweneditu. Mwenedito. Les négociations entreprises par le maire de la ville de Mwenedito n'ont pas abouti. Les responsables de Grec 6 se sont restés catégoriques. Ce mercredi, une autre réunion est prévue en Mbujimayi avec le commandant de la 21e région militaire. Rappelons que deux sujets chinois ont été tués à bout portant le jour de la Saint-Sylvestre par un agent de police commis à leur garde. Un troisième a été blessé par balle grièvement, mais depuis cet incident, le présumé meurtrier court toujours dans la nature. Trois officiers de la PNC Mwenedito sont aux arrêts depuis ce mardi à l'auditorat militaire de garnison pour avoir affecté d'une manière illégale cet agent de police pourvu d'une arme à la sécurisation des sujets chinois de Grec 6. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa. L'université de Kinshasa, l'ISTEM Kinshasa ainsi que les cliniques universitaires sont devenues davantage enclavées suite à la léthargie dans l'exécution des travaux de réhabilitation des avenues bypass au niveau du rond-point Ngaba et Kimwenza vers le triangle des campus. Les usagers de cette route dénoncent le fait que les travaux amorcés sont en arrêt alors que la déviation du parc d'Evirunga et le pont au niveau de triangle ont été cassés, rendant ainsi l'accès au site de l'Unikin et Mongafula quasi impossible. Conséquence, des embouteillages chroniques s'observent sur bypass et université, toutes deux en délabrement très avancé à partir du rond-point Ngaba. Michel Kifindangoy.
Après avoir salué les travaux de réhabilitation des avenues bypass au niveau de rond-point Ngaba et Kimwenza au niveau des triangles et des campus, les usagers de cette route déplorent l'arrêt des travaux alors que ces tronçons ont été rendus totalement impraticables.
Nous louons d'abord la volonté des autorités à commencer les travaux d'arrangement de ces routes. Mais chose grave, ces routes sont abandonnées à leur propre sort. Et tout ça, c'est en défaveur de nous, populations de ces coins.
Et c'est principalement les étudiants de l'Université de Kinshasa et de l'ISTEM qui en payent le prix.
On ne voit plus les ouvriers qui travaillent pour cette route. Donc, nous, comme étudiants, on fait le pied des rond-point Ngaba jusqu'au campus. Le pont qu'on a cassé, jusqu'à aujourd'hui, les travaux ne se terminent pas.
Ces étudiants plaident pour la reprise et l'accélération des travaux.
Avant de commencer ces travaux, ils devaient d'abord faire des solutions qui devaient les amener à terminer ces travaux le plus vite possible. Mais en démolissant ces ponts et en les laissant prendre tellement de mois comme ça, ça nous aide pas.
Ils disent ne pas comprendre pourquoi casser le pont du triangle et les dalles de l'entrée parc Virunga s'il n'y avait pas tout le moyen pour finaliser les travaux dans un temps raisonnable.
Au Sud Kivu, la société civile, en collaboration avec d'autres groupes de pression, a organisé une marche pacifique ce mercredi à Bukavu pour deux objectifs. Dénoncer l'exploitation illicite des ressources minières de la province et soutenir le militaire au front contre le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Jean Kassami, dans quelle ambiance se sont déroulées les manifestations?
La marche était quadrillée pacifiquement par la police pour éviter toute tentative de débordement comme on pouvait le craindre, sauf que certaines écoles n'ont pas ouvert leurs portes par mesure de précaution. Les marchés, les magasins, les boutiques et les transports en commun ont fonctionné normalement. Le coordonnateur du consortium des mouvements citoyens, Maître Biamungu Samuel.
La population de la ville de Bukavu, en particulier du Sud Kivu en général, s'est mobilisé ce matin pour dire non à l'exploitation illicite de nos minéraux. Trop c'est trop, nous n'allons pas accepter que nos minéraux soient exploités pendant que la population locale ne bénéficie absolument à rien. Nous ne voulons plus que ces Chinois continuent à exploiter nos ressources naturelles sans que la population locale ou la province du Sud Kivu gagne ces taxes que ces sociétés doivent à la province.
Nene Bintou, du bureau de coordination de la société civile, met l'accent plus sur l'aspect sécuritaire.
Envie de prouver au monde la colère des sites kivusiens face aux attitudes belliqueuses du Rwanda, un sit-in sera organisé pendant 3 jours au niveau de nos frontières avec le Rwanda pour exiger le retrait des troupes rwandaises de la RDC, que les traîtres soient dénichés et sanctionnés.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En bref, cette autre nouvelle du Sud Kivu, il s'agit de l'affaire de lingots d'or et des billets des banques en dollars saisis par le gouvernement provincial du Sud Kivu auprès d'un groupe de Chinois qualifiés d'exploitants illégaux des minerais à Rumbimbi dans le territoire de Walungu. Cette affaire préoccupe le sommet du ministère de l'Intérieur. Dans un télégramme adressé au gouverneur du Sud Kivu, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur instruit ce dernier de lui transmettre le rapport détaillé sur la situation des ressortissants chinois en possession des lingots d'or et d'importantes sommes d'argent liquide. En plus, la hiérarchie de Kinshasa demande au gouverneur du Sud Kivu de mettre devant le parquet général pour poursuite judiciaire tous les biens saisis, les auteurs et les complices pour rétablir l'État congolais dans ses droits conformément aux textes légaux en la matière.
Actualité internationale.
Au Cameroun, le syndicat des enseignants du supérieur a lancé depuis lundi 6 janvier une grève étendue aux 11 universités publiques que compte le pays. Au cœur des revendications des grévistes du supérieur au Cameroun, le paiement de diverses primes de recherche et des allocations octroyées depuis 2009. Le ministère de l'enseignement supérieur qui traite ce versement reconnaît quelques retards dus au traitement administratif des dossiers.
L'invité.
Nous recevons comme invité Jean-Claude Cachemois, gérant de la société de microcrédit congolaise SMICO, agence de Kindu. Nous sommes dans la province du Maniema. En effet, SMICO venait d'ouvrir ses portes à Kindu afin de desservir la population du Maniema. Jean-Claude Cachemois s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Jean-Claude Cachemois, bonjour.
Bonjour madame.
Depuis décembre dernier, la banque SMICO a ouvert ses portes à Kindu. Vous venez avec quel objectif?
Bon, SMICO, comme vous le savez, c'est la société des microcrédits congolais dont la mission est d'offrir à ses clients des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins et d'assurer le développement individuel et général de la population exclue du circuit bancaire classique.
Pourquoi avoir ciblé la province d'Imanema pour installer votre institution de microfinance?
Bon, au fait, SMICO, c'est une institution qui a vu le jour à Bukavu en 2009. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que SMICO compte pratiquement 10 agences, dont l'agence de Kindu. Donc, nous sommes en train de travailler sur l'intensification de nos activités dans différentes provinces. Et parmi les provinces qui étaient considérées comme étant notre cible, il y avait aussi la province du Maniema. Le but est de servir cette population parce que il y a très longtemps que cette population est, je peux dire, dépourvue des services de la microfinance. Nous nous sommes dit que nous puissions venir pour donner un coup de pouce à cette population.
Vous venez donner un coup de pouce à la population. Quels sont les avantages que vous accordez alors à vos membres?
Au fait, SMICO est une société de microcrédit qui n'est pas à comparer avec une coopérative d'épargne et de crédit ou bien une mutuelle d'épargne et de crédit. Donc nous travaillons avec les clients et nous avons toute une panoplie de produits à destination de nos clients, dont les produits de dépôt et les produits de crédit. C'est vraiment toute une diversité. Mais nous avons aussi mis en place des produits digitaux pour faciliter la proximité avec nos clients et aussi pour faciliter à nos clients l'accès à leurs revenus.
Monsieur Jean-Claude, quelles sont les conditions pour l'octroi des crédits bancaire ici chez SMICO?
Par rapport aux conditions, d'abord il faut commencer par l'ouverture d'un compte, parce qu'en réalité, lorsque nous devons octroyer un crédit, on ne peut pas le faire de main à main, mais l'argent ou les crédits doit être positionné dans les comptes du client. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord commencer par l'ouverture d'un compte, qui peut être un compte courant ou épargne à vue, ou bien un compte épargne classique. Et l'ouverture des comptes, c'est gratuitement. Mais maintenant, les conditions pour être éligible au crédit, premièrement, il faut impérativement avoir au minimum 18 ans. Deuxième chose, il faut disposer d'une activité génératrice des revenus.
À quelle catégorie des populations et avec quelle garantie?
Par rapport à la catégorie de la population, moi je peux dire que notre cible est considérée de toutes les catégories et principalement les personnes à faible niveau des revenus, mais qui sont économiquement actives. Mais en ce qui concerne la garantie dépend d'un segment de la clientèle à un autre. Nous avons des microcrédits que nous accordons aux micro-entrepreneurs. Nous avons les crédits à destination des TPE, ça veut dire des très petites entreprises. Nous avons aussi des crédits à destination aux PME. Mais je peux aussi dire que nous avons des crédits à destination des salariés qui peuvent être domiciliés ou pas. Mais SMICO est en train de mettre sur pied aussi des crédits à destination du secteur agricole afin de pouvoir booster le développement de ces secteurs.
Que dire à toute la population qui voit SMICO naître dans la province d'Imanimo?
Bon, en tout cas, tout ce que je peux dire à la population, de s'approcher à SMICO. SMICO est là pour non seulement pour l'accès au crédit, mais aussi pour la culture de l'épargne. Parce que nous voulons sérieusement travailler sur non seulement l'éducation financière, mais aussi sur l'inclusion financière. Donc notre souhait est que le maximum de la population puisse avoir accès aux services financiers des SMICO.
Est-ce que vous n'allez pas décevoir la population d'Imanima comme les autres viennent, ouvrent leurs banques et dans quelques peu de temps disparaissent?
Bon, et d'ailleurs, c'est nous qui sommes en train de solliciter la population de ne pas nous décevoir parce que nous sommes venus pour l'intérêt général de la population. Et il faut savoir que SMICO est une société avec un actionnariat belgo-congolais. Nous avons l'agrément de la Banque Centrale du Congo. SMICO n'est pas venu pour jouer, mais c'est plutôt pour travailler.
Monsieur Jean-Claude Cachemoi, je vous remercie.
Merci madame, c'est moi qui vous remercie.
Jean-Claude Cachemoi, gérant de la société de microcrédit congolaise SMICO, répondait aux questions de Florence Kizalunga depuis Kindu, au Maniema. Ce journal prend fin sur Radio Kapi. Il a été mis en onde par Polydor Basunga, coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Alain Irung. Gisèle Kaj était à la présentation. Je vous retrouve à 19h pour notre dernier bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien.